journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. À la une de l'actualité, la ville d'Afrin dans le nord syrien qui tombe après 2 mois d'une féroce offensive turque. C'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui annonce l'entrée des soldats turcs dans la ville kurde. Il n'a même pas eu besoin de mener campagne. Vladimir Poutine assuré d'être réélu à la présidence russe. Nous irons à Moscou dans ce journal voir comment se déroule le scrutin avec un enjeu tout de même, celui de la participation. Nous verrons aussi que des élus du Front National se sont glissés parmi les observateurs étrangers invités pour cette élection russe. Une manière d'entretenir une amitié déjà ancienne. Nous nous interrogerons sur ce séminaire gouvernemental, le 5e en 10 mois, qui réunit les ministres autour du coach Édouard Philippe cet après-midi. Et nous terminerons ce journal sur des notes de musique, celles de Leonard Bernstein. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Ils sont les premiers à annoncer la chute d'Afrin après 2 mois de siège par l'armée turque. L'Observatoire syrien des droits de l'homme et ses observateurs de terrain indiquent donc ce matin que les forces de Recep Tayyip Erdogan sont entrées dans la ville, jusque-là sous contrôle kurde. Une ville devenue depuis le 20 janvier le symbole de l'offensive turque pour chasser les Kurdes du nord syrien et de la frontière avec la Turquie. Les combats auraient toujours, selon l'OSDH, tué 1500 combattants kurdes et poussé à l'exode 200 000 civils. C'est tout dernier jour, un exode qui se poursuit, mais pour combien de temps encore, cette fois dans la Ghouta orientale, ce secteur proche de Damas, et lui étranglé par l'armée syrienne. Et là aussi, la férocité des combats pour chasser les rebelles pousse la population à fuir pour survivre. C'est une correspondance depuis Beyrouth de Nicolas Feldman.
Des centaines de civils chargés de sacs, de couvertures, marchant sur des chemins de terre. Toute la journée d'hier, la télévision d'État syrienne a diffusé ces images d'habitants quittant la Ghouta, redirigés vers des camps de fortune, entassés dans des écoles ou dans des lieux publics réquisitionnés en urgence. Les évacuations sont présentées par le média d'État comme la libération de la Ghouta, mais certains sur place refusent toujours de quitter l'enclave de peur des représailles ou des arrestations une fois en territoire sous contrôle du régime. Pour la seule journée d'hier, l'Observatoire syrien des droits de l'homme estime que 20 000 personnes sont sorties de la Ghouta, car les bombes continuent de frapper les zones rebelles. Hier, toujours selon l'OSDH, elles ont tué au moins 37 civils. Dans le même temps, les forces loyalistes progressent au sol. Elles contrôlent désormais 80% de l'enclave. La méthode employée depuis un mois dans la Ghouta par le régime rappelle la reprise en décembre 2016 de la grande ville d'Alep dans le nord-ouest du pays. Une population assiégée, pilonnée pour enfin être contrainte à l'exil face à l'avancée des troupes au sol. Dans la Ghouta, les groupes islamistes se sont dit prêts hier à des discussions directes avec la Russie sous l'égide de l'ONU, mais le régime semble lui déterminé à accélérer. Hier, il donnait 24 heures aux habitants de la poche assiégée d'Arasta pour quitter la ville avant de lancer l'offensive.
Nicolas Feldman à Beyrouth. Qu'il ait été président ou premier ministre, ça fait 19 ans maintenant que Vladimir Poutine incarne le pouvoir en Russie. Le président russe organise ce dimanche sa réélection pour un 4e mandat, un scrutin avec 8 candidats, mais pas franchement de suspense. Ça n'empêche pas Poutine d'avoir tout fait pour inciter les électeurs russes à se rendre aux urnes en nombre aujourd'hui. On va tout de suite voir comment se déroule ce vote à Moscou avec notre envoyé spécial Claude Bruyot. Claude, vous êtes au bureau de vote du lycée Pouchkine dans le centre historique de la capitale russe. Vladimir Poutine a un seul adversaire finalement aujourd'hui, c'est l'abstention, voire le boycott du scrutin.
Bonjour Camille. Alors tout a été fait ici pour que les électeurs se déplacent en nombre. Buffet et buvette à volonté, mais pas d'alcool, seulement du café, du thé, de l'eau et bien sûr du jus de fruits pour les enfants. Vous l'avez compris, le taux de participation est le seul enjeu. Plus la participation sera forte, plus la victoire de Vladimir Poutine sera légitime selon son entourage. Avec déjà un premier indice, dans l'extrême-orient russe qui a commencé à voter hier, le taux de participation est supérieur à celui de 2012. Ici à Moscou, c'est le froid, il fait moins 18 degrés, et la lassitude du système Poutine, qui seront les principaux ennemis de la participation. En votant ce matin, comme à son habitude à l'Académie des sciences, Vladimir Poutine a répondu aux journalistes présents « Peu importe mon score, pourvu que je sois en situation de poursuivre mon mandat ». À l'autre bout de l'échiquier politique, son principal opposant, Alexei Navalny, interdit de scrutin, a dénoncé ce matin le fait que dans la région de Krasnodar, au sud, des observateurs de son mouvement n'ont pas été autorisés à rester dans un bureau de vote de la ville. Motif officiel, toutes les places étaient déjà prises. Toujours en ce qui concerne les observateurs, ils sont 1500 officiellement mandatés par l'OSCE et les ambassades, mais ne pourront être présents partout car il y a 97 000 bureaux de vote dans toute la Russie.
Merci beaucoup Claude Bruyot, en duplex donc du lycée Pouchkine de Moscou. Et Claude qui nous parlait à l'instant des nombreux observateurs internationaux déployés pour veiller au bon déroulement de ce scrutin. Il y a une autre catégorie d'étrangers qui ont été invités par les autorités pour cette présidentielle. Il y a plusieurs élus français parmi eux, des élus du Front National, et c'est loin d'être un hasard, Anne Fauquemberg.
Ils sont trois à avoir fait le déplacement. Le député des Pyrénées-Orientales, Louis Alliot, et les deux députés du Pas-de-Calais, Ludovic Pajot et Bruno Bild. L'eurodéputé Bruno Gollnisch, qui se réjouissait dès le mois de février de cette expédition, a finalement renoncé pour des raisons personnelles. Des élus frontistes qui font partie des 300 représentants étrangers invités par la Douma. Pour l'historienne Galia Ackermann, bon nombre d'entre eux sont issus de l'extrême droite européenne et ils servent en fait de caution occidentale au régime de Vladimir Poutine.
Pour Vladimir Poutine, c'est la possibilité de dire à sa propre opinion publique, vous voyez, l'Occident est contre nous, l'Occident nous snobe, l'Occident nous poursuit, il nous impose les sanctions, il nous accuse d'empoisonnement, etc., etc. Mais nous avons quand même des alliés. Il y a des forces en Occident qui nous restent fidèles, qui viennent nous soutenir au moment des élections. C'est ça le message et le sens de cette manœuvre.
Ce soutien du Front National à Vladimir Poutine, il est naturel, il repose sur le partage des mêmes valeurs conservatrices. Marine Le Pen avait d'ailleurs été adoubée par le chef de l'État russe l'an passé lors de sa campagne présidentielle. Le Front National, qui au cours de son histoire a aussi eu plusieurs fois recours à des prêts russes pour se financer.
Anne Fauquemberg, le gouvernement Philippe favorable au travail dominical et qui le prouve aujourd'hui. Le Premier ministre réunit son équipe en fin d'après-midi à Paris, non pas à Matignon comme c'était le cas jusque-là, mais à l'école Ferrandi, un établissement spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Une nouvelle séance pour améliorer la cohésion de groupe alors que la tension sociale monte, Yannick Falt.
Comme les réformes, les séminaires gouvernementaux s'enchaînent vitesse grand V. C'est le cinquième en 10 mois. L'objectif n'a pas changé. Faire le point sur les textes à venir. Ils sont toujours nombreux. Violences faites aux femmes, logement, fraude fiscale, loi Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises, réforme constitutionnelle. Ces rendez-vous permettent de se coordonner au sein du gouvernement. Qui va faire quoi, explique Matignon. Regardez encore et toujours dans le pare-brise, mais pas seulement, également dans le rétroviseur. Cette fois, on tient au suivi des réformes, montrer qu'elles sont concrètes, efficaces, insiste l'entourage d'Édouard Philippe, le Premier ministre, grand adepte de la pédagogie, exercice crucial au moment où la grogne monte, cheminots, fonctionnaires, retraités, EHPAD, 80 km/h sur les routes. Ce qu'il nous faut, c'est éviter le côté zébulon hyperactif de Nicolas Sarkozy, explique une députée de la majorité, une parlementaire venue de la droite, critique sur le quinquennat 2007-2012. À l'époque, on disait beaucoup, mais on ne faisait pas grand-chose.
Yannick Falt, on va refermer ce journal avec un centenaire qui fait vibrer le monde de la musique. Le compositeur américain Leonard Bernstein, décédé en 1990, aurait eu aujourd'hui 100 ans. Et pour l'occasion, l'auditorium de Radio France accueille un concert inédit. L'Orchestre National de France va jouer la 3e symphonie de Bernstein, son Kaddish, du nom de la prière juive des morts. Elle sera accompagnée cette prière par un texte de Samuel Pizard, dit par sa femme Judith. Et sa fille Léa, cette dernière préside l'ONG Aladdin qui œuvre contre le négationnisme et l'antisémitisme, et elle voit une vraie portée géopolitique dans le Kaddish de Bernstein.
C'est un texte très très actuel qui se trouve vraiment à la confluence de la culture, de la musique et de la géopolitique. Leonard Bernstein avait donc écrit cette symphonie en 1963 avec un texte narré qu'il a lui-même écrit, mais il n'en était jamais satisfait. La musique est très belle, et il trouvait son texte trop faible. Il a demandé à mon père, l'un des plus jeunes rescapés d'Auschwitz, de faire son propre texte, justement parce que lui avait souffert et aurait un message plus percutant. Et mon père a finalement écrit ce livret après le 11 septembre, quand il a compris que le monde avait changé et qu'il fallait peut-être dire les choses autrement.
Et donc ce Kaddish n'est pas une prière pour les morts, c'est plutôt une alerte aux vivants des dangers qui menacent aujourd'hui.
Ce Kaddish est une alerte aux vivants, c'est un appel à un devoir de vigilance. C'est un texte très œcuménique, on prie pour toutes les religions, c'est une prière à la fois religieuse et surtout laïque, c'est basé sur la prière juive pour les morts, mais c'est plus une prière pour l'humanité, pour l'avenir, et c'est une symphonie que Leonard Bernstein a dédiée à la mémoire de Kennedy puisqu'il l'a terminée juste après l'assassinat du président. Donc sa portée politique et géopolitique est inhérente.
Voilà, Léa Pizarre-Haas au micro de Nadine Epstein. Le concert à la Maison de la Radio cet après-midi à 16h. La météo, enfin, c'est de la neige qui tombe ce matin sur le quart nord-est. La vague de froid amène des températures négatives. Elles vont le rester toute la journée sur cette partie du pays. Le froid va s'étendre dans la journée plus au sud avec des flocons prévus dans l'après-midi sur le massif central. Il y a de la pluie dans l'ouest et le soleil tout de même qui brille sur le sud-est où il fait déjà à peu près 10 degrés.